Le journal, Olivier Zano.
Bonjour, les écarts salariaux entre hommes et femmes sont minimes dans l'administration cantonale. C'est une analyse publiée ce matin qui l'affirme. C'est un peu moins vrai dans le secteur de l'enseignement, mais pour des raisons qui s'expliquent selon le conseil exécutif. Natacha Mengoli nous en parle dans quelques instants. Le marché d'automne de Champeaux se prépare activement. La manifestation aura lieu le samedi 2 octobre, avec toutefois 10% d'exposants en moins. La casse liée à la pandémie a été limitée toutefois, selon les organisateurs. Toujours pas d'organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture suisse. Le moratoire contre leur utilisation a été prolongé de 4 ans ce matin par le Conseil national. Réaction sous la coupole dans cette édition. Du soleil et de la douceur pour ce début d'automne. Une journée lumineuse qui nous attend avec des températures comprises entre 21 et 23 degrés. On profite et on se réjouit car ça continue demain. Les salaires entre hommes et femmes ne présentent pas des écarts importants au sein de l'administration cantonale bernoise. C'est ce que montre la dernière analyse en la matière publiée ce matin. Les différences sont plus notables pour le personnel enseignant, mais pour des raisons objectives. Natacha Mengoli, vous vous êtes penchée sur ces chiffres.
Et les données montrent qu'au niveau de l'administration cantonale, sur la base d'une rémunération brute moyenne, les femmes gagnent 10,9% de moins que les hommes. Mais si on prend en compte leur âge et leur année de fonction, l'écart salarial se réduit à 2,4% en défaveur de ces dames. La très grande partie des différences de salaire s'explique donc par le fait que les femmes sont souvent plus jeunes et restent employées moins longtemps sans interruption. On pense par exemple ici au congé maternité ou familiaux. A l'inverse, les hommes occupent souvent des postes de cadre, ce qui pèse évidemment dans la balance.
Alors un écart d'un peu plus de 2% dans l'administration, mais il est quand même plus élevé pour le corps enseignant, Natacha.
Oui, c'est vrai, on est toujours sur une différence de l'ordre de 10% en rémunération brute. Mais après correction des facteurs non discriminatoires, donc l'âge, les années de service et les qualifications, on arrive alors à un écart de 4,7%. Ça semble quand même très élevé, mais après recherche d'informations auprès de Christophe Michel, c'est le responsable des ressources humaines pour le corps enseignant au sein du canton de Berne, eh bien on trouve là aussi une explication tangible. Le salaire des enseignants a été en fait analysé toute catégorie confondu, soit des classes enfantines à celles du gymnase. Et comme les hommes enseignent le plus souvent dans les degrés supérieurs où les rémunérations sont plus élevées, eh bien on aboutit à cette différence de près de 5%. Finalement, si chaque catégorie salariale avait été analysée séparément, Christophe Michel estime que l'écart aurait été sous les 1%, sachant que les échelles s'appliquent sans distinction de genre.
Merci Natacha. Le gouvernement bernois a indiqué prendre connaissance de ces résultats avec satisfaction. Satisfaction, pardon, puisque les écarts se situent sous le seuil de tolérance de 5% fixé par la Confédération. Ces analyses ont été réalisées suite à la révision de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. Elles seront reconduites dans 4 ans. Deux pétitions à Crémines lancées par des citoyens du village. Elles s'opposent au changement d'affectation de l'ancienne discothèque, le Mustang. L'établissement veut devenir un bar contact. De plus, des chambres seront mises à disposition en dessus du restaurant La Croix Blanche pour l'exercice de la prostitution. Contacter le secrétariat communal a connaissance de l'existence de ces pétitions, mais ne souhaite pour leur pas commenter. Il rappelle toutefois que le conseil communal avait à l'époque proposé une zone réservée dans le cadre du dépôt du permis de construire de ce projet, mais les autorités avaient été déboutées par deux instances en raison d'un manque de proportionnalité. Les citoyens ont jusqu'au 12 octobre pour signer les pétitions. Le mouvement autonomiste jurassien est prêt à passer l'éponge sur la suppression des articles 138 et 139 de la Constitution jurassienne. Une suppression annoncée hier par le gouvernement jurassien lors de la signature de la feuille de route sur le transfert de Moutier dans le Jura. Pour rappel, ces articles sont hautement symboliques. Ils portent sur la possibilité d'une réunification entre le Jura et le Jura bernois. Le MAJ n'entend donc pas monter au front pour s'opposer à ce retrait. Il reste en détention provisoire pour un assassinat commis en 1999 à Bienne. Le tribunal fédéral a confirmé aujourd'hui ce jugement pour un homme soupçonné d'avoir participé au braquage d'une famille yéniche, mais aussi à l'assassinat d'un des fils. Les faits se sont déroulés il y a donc un peu plus de 20 ans. Le suspect a été arrêté en janvier dernier. Il restera en détention jusqu'au 11 octobre. Cet avertissement aux usagers de la route dans le Seeland. Comme chaque année, la police cantonale invite à la prudence durant tout le mois d'octobre. En cause, les transports de betteraves sucrières qui vont reprendre et qui ont pour résultat la présence de nombreux véhicules lents avec remorque. Il est vivement conseillé de prendre son mal en patience et surtout de renoncer à des dépassements dangereux. Champeau se prépare à accueillir son 11e marché d'automne. Il se déroulera le 2 octobre après avoir été annulé l'an dernier en raison de la pandémie. Mais comme l'ont déjà annoncé les organisateurs, fin août, il faudra montrer patte blanche pour participer à la manifestation et avoir un certificat Covid. Une décision qui a eu un certain impact sur la participation des exposants, comme l'explique André Mercerat, le président du comité d'organisation du marché d'automne de Champeau.
Oui, ça a eu un certain impact. Une fois qu'on a annoncé aux inscriptions qu'il fallait avoir le certificat Covid pour venir à la manifestation, on a eu des désistements, une quinzaine, entre 15 et 20 désistements. Mais on avait une liste d'attente, donc on a pu partiellement combler, puisqu'on est quand même passé 100 stands actuellement. On a comblé une partie des désistements par une liste d'attente.
Par beau temps, entre 4 et 5 000 personnes viennent ici à Champeau pour ce marché d'automne. Alors le beau temps, c'est un paramètre. Maintenant, il y a le Covid, le certificat Covid par-dessus. Est-ce que vous vous attendez à une baisse de fréquentation?
Oui, probablement, on aura une baisse de fréquentation. On peut l'estimer peut-être à 20%, je ne sais pas. Et puis la partie Covid, 20%. Ensuite, le temps, il y a quand même à 10-15% au niveau du temps. Ça dépend le temps également. Mais je pense que les gens, comme il y a eu peu de manifestations dans la région, ont une envie de sortir et de se retrouver et de retrouver des gens après pratiquement 2 ans, 1 année et demie, 2 ans, où il n'y a plus rien qui se passe ou très peu de choses.
Un des propos recueillis par Alexandre Michler. Le marché d'automne de Champeau aura donc lieu le 2 octobre de 9h à 18h. Comme les tests seront à nouveau payants dès le 1er octobre, les organisateurs mettent sur pied des tests gratuits le jeudi 30 septembre dans l'après-midi. Il reste encore quelques places, mais il faut s'inscrire. Vous retrouvez les infos sur rjb.ch. Plus de personnel pour le traçage des contacts Covid dans le canton. La direction de la santé publique a décidé de créer une 50aine de postes à plein temps supplémentaires, ce qui portera l'effectif à 200 personnes au total, une annonce faite aujourd'hui. Le canton de Berne s'attend à une hausse des cas de Covid-19, non seulement en raison du variant Delta plus contagieux, mais aussi parce que les personnes resteront plus souvent à l'intérieur avec la saison froide qui approche. Les autorités communiquent ces chiffres également. À l'heure actuelle, environ 2500 personnes sont en quarantaine et quelques 1900 se trouvent en isolement dans le canton. Toujours à propos de la pandémie, le Conseil exécutif ne laissera pas tomber la culture. Il a approuvé une deuxième tranche d'alimentation du Fonds d'encouragement des activités culturelles à hauteur de 15 millions de francs. C'était une condition pour continuer à bénéficier des aides fédérales. De l'aveu du gouvernement, les conséquences financières de la pandémie sont encore difficiles à évaluer pour les acteurs de ce domaine, d'où l'importance de garantir un soutien. La limite d'âge pour le certificat Covid devrait être relevée à 25 ans. C'est ce qu'estime l'association fêtière suisse pour l'animation socio-culturelle Enfance et Jeunesse. Selon elle, les jeunes et les enfants souffrent déjà assez de la situation de la pandémie et des restrictions actuelles. Par ailleurs, les cantons se démènent pour faire grimper leur taux de vaccination avec par exemple des centres de consultation, des camions de vaccination et des campagnes d'information pour la population issue de la migration. Pour l'instant, même si les chiffres montent, ils restent 2 à 3 fois plus bas que ceux de mai et de juin. Pas moins de 2,3 milliards de francs seront investis cette année dans l'armée. Le Conseil des États a approuvé ce matin à l'unanimité les crédits proposés par le Conseil fédéral, un crédit déjà accepté par le national. Les sénateurs qui ont par ailleurs éliminé la dernière divergence concernant la nouvelle mouture du projet de déduction fiscale pour les frais de garde des enfants. Les parents pourront déduire 25 000 francs de leurs revenus lors de la déclaration d'impôt contre 10 000 francs en ce moment. Le Conseil des États a en outre renoncé à augmenter de 250 à 300 francs la réduction par enfant de l'impôt fédéral direct. On reste sous la coupole. Pour la 4e fois ce matin, une nette majorité du Conseil national a prolongé de 4 ans le moratoire sur l'utilisation d'OGM dans l'agriculture. Le peuple avait accepté une initiative en ce sens en 2005. Pourtant, en 15 ans, de nouvelles technologies ont été développées. Le moratoire ne s'applique d'ailleurs pas à la recherche. Alors prolonger le moratoire reste une solution de facilité, la conseillère nationale verte Valentine Piton.
Les raisons de cette prolongation ne sont pas exactement les mêmes que les précédentes. Ici, il s'agit de prolonger surtout pour apporter des réponses aux nombreuses interrogations que suscitent les nouvelles techniques de modification de l'ADN. Et cette vraiment profusion de nouvelles techniques pose de nouvelles interrogations, a priori des risques comparables par rapport aux OGM classiques. Et puis, on a vraiment besoin maintenant d'évaluer de façon consciente sans se précipiter ces risques ainsi que des possibilités d'opportunités, mais qu'il ne faudrait non plus pas justement surestimer.
Le PLR et les Verts libéraux souhaitaient qu'on taille une brèche dans le moratoire en faveur des nouvelles techniques de modification génétique des plantes, sans succès. La conseillère nationale libérale radicale genevoise, Simone de Montmollin.
Je crois qu'il faut ici donner un signal que les choses évoluent, la science évolue et que nous ne pouvons pas rester sur les bases de décisions qui étaient celles que nous avions prises il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a non seulement des évolutions scientifiques, techniques qui apportent des réponses beaucoup plus fines, beaucoup plus précises. Et puis d'autre part, nous avons des enjeux environnementaux, nous avons des enjeux climatiques que nous devons relever, pour lesquels ces nouvelles approches peuvent apporter des solutions reconnues et déjà utilisées d'ailleurs ailleurs.
Si la majorité du PLR s'est opposée à la reconduction du moratoire, Simone de Montmollin s'est quant à elle abstenue. Notez que la prolongation de 4 ans du moratoire sur les OGM dans l'agriculture doit encore être validée par le Conseil des États.
À l'écoute d'RJB, il est midi 26.
Sport. Le trophée de la Tour de Mouron s'offre une 9e édition de prestige. L'épreuve accueille les championnats de Suisse de course de montagne dimanche à Malraix. Les titres nationaux seront décernés au terme du tracé de 11,8 km pour 800 mètres de dénivelé positif. Habitué du trophée jurassien et du Jura Top Tour, le trophée de la Tour de Mouron va voir des concurrents de renom s'élancer sur son parcours. Le président du comité d'organisation, Yann Minder.
Il y a vraiment du gros calibre. Chez les dames, on a Maude Matisse qui est vice-championne du monde de course de montagne, triple championne d'Europe, sextuple championne suisse qui nous fait l'honneur d'être présente. Chez les hommes, on a Jeremy Hunt qui est octuple vainqueur, sauf erreur. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi César Costa de Martigny qui est présent et il y a d'autres coureurs qui vont s'inscrire sur place. Ouais, vrai.
Finalement, est-ce que les régionaux ont quand même une chance de se mêler à la lutte pour le titre ?
Tout le monde part en même temps. Ça, c'est clair. Ensuite, Le but, c'est d'arriver en même temps. Alors, clairement, quand on parle de Maude Matisse, c'est quelqu'un, c'est la référence actuellement en matière de course de montagne, côté féminin en tout cas. Ensuite, les régionaux, oui, il y a d'excellents régionaux. Jeremy Hunt, qui est extrêmement performant, il aura vraiment une carte à jouer. Ensuite, si je suis honnête, je n'ai pas vraiment regardé la liste de départ complète. Mais oui, il y a vraiment quelque chose à faire. Et nous, ce qui nous importe aussi vraiment, c'est de populariser aussi cette manifestation. Et puis, que le coureur local prenne le départ en même temps que ces athlètes de renom, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On compte vraiment sur les coureurs régionaux, vraiment. Ouais.
Yann Minder répondait à Nadia Chmirou et Anthony Montandon aujourd'hui en direct dans la matinale. Interview complète à retrouver sur rjb.ch. 12h28 sur RJB, merci de votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée.